Cinéphile de notre temps continue ses pérégrinations en festival et cette fois-ci, du 11 au 15 décembre 2020, nous posons notre micro au carrefour de l'animation, festival spécialisé dans le cinéma d'animation, aux films de tout pays, de toutes formes et de toutes sortes. Pour cette première pastille, nous questionnons Isabelle Vanini, programmatrice du carrefour et cinéphile au goût éclectique.
Oui, alors moi je suis Isabelle Vanini, je suis programmatrice au Forum des Images depuis plus de 25 ans et j'ai eu tout un parcours avant dans d'autres institutions et je m'occupe particulièrement du cinéma d'animation dans cette maison. Alors je précise le cinéma d'animation adulte, je ne travaille pas du tout sur le jeune public, depuis 1999 et donc ça m'a permis... du coup, de devenir experte, comme on dit, en cinéma d'animation, parce que j'ai rencontré énormément de cinéastes internationaux. J'ai eu la chance d'organiser des événements assez unis, comme faire venir Yuri Norstein ou des gens comme Jan Zwankmeyer. Là, il y a les frères Kwe qui viennent, qui m'ont demandé de projeter en toute intimité leur dernier court-métrage, parce qu'ils ont... Voilà, ils sont un peu dans leur maison, c'est la maison de l'animation ici. Et ils nous font confiance, on se connaît depuis longtemps. Et donc c'est vraiment très, très valorisant d'avoir des cinéastes comme ça qui vous font confiance et qui vous disent on aimerait bien projeter notre film là, auprès de proches, dans cette salle du Forum des Images. Voilà, donc j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré tous ces gens-là et d'être très libre en matière de programmation, en fait.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, justement, comment a été créé le Carrefour de l'animation ?
Alors, moi, je ne suis pas à l'origine du Carrefour proprement dit, mais à un moment donné, au Forum des Images, on s'est dit qu'on allait s'attaquer au cinéma d'animation qui nous paraissait... je ne vais pas utiliser le mot « genre », mais en tous les cas, une forme de cinéma particulièrement riche, inventive et qui était peu abordée dans d'autres institutions. Et donc, on a créé en 1999 plusieurs formes. Donc, il y a eu le rendez-vous cinéma d'animation dont je m'occupais, donc un rendez-vous une fois par mois avec des réalisateurs qui présentaient une carte blanche puis leur propre travail. Et en même temps, on a créé Nouvelles Images du Japon. L'idée étant d'avoir... un rendez-vous très adulte d'une part et un rendez-vous pour les ados, jeunes adultes d'autre part. Et peu de temps après, on a créé effectivement Carrefour du cinéma d'animation qui nous paraissait manquer. Alors il faut se replacer à l'époque, il y a 17 ans, les écoles d'animation françaises étaient importantes mais pas aussi importantes qu'aujourd'hui. Et donc, on a travaillé avec 10-15 écoles importantes à ce moment-là. On leur proposait de venir effectivement au Forum des Images, présenter un stand de leur école pour expliquer aux étudiants intéressés ce qu'on pouvait apprendre dans l'école, quelles étaient les spécificités de telle et telle école. Et on projetait les films de fin d'études. Et on était quasiment les seuls à l'époque. Aujourd'hui, on voit bien que les films de fin d'études ont des distributeurs, sont mélangés d'ailleurs aux films pro dans les festivals et parfois gagnent même des prix. Donc le carrefour du cinéma d'animation a été pensé comme ça au départ. On faisait venir les étudiants, ils présentaient des making-of, ils rencontraient d'autres étudiants. Et petit à petit, voyant l'évolution aussi du milieu, on a fait évoluer le Carrefour et on en a fait un festival de cinéma d'animation d'auteur, présentant toujours des films de fin d'études. Le nombre d'écoles, évidemment, a augmenté. Mais surtout des courts-métrages, des longs-métrages, des making-of, des working-progress, du film de patrimoine. Enfin, c'est devenu un festival qui dépasse en tous les cas le film d'école, ce qu'il était au départ. Donc on avait ces trois portes d'entrée à une époque. Et aujourd'hui, on tient toujours compte de l'évolution évidemment d'un milieu... de la distribution du cinéma, est-ce qu'il se fait bien, est-ce qu'il ne se fait pas bien, est-ce qu'on a une place du coup à prendre, puisque nous on est en non commercial, on n'est pas un cinéma commercial. Donc finalement aujourd'hui on a Tout Anime qui a un rendez-vous mensuel qui présente beaucoup de making-of et coulisses de la création de courts-métrages, longs-métrages, de plutôt de jeunes auteurs. Voilà, il y a 20 ans, on a plutôt fait découvrir les grands auteurs du cinéma d'animation qui avaient peu de visibilité, sauf si vous alliez au Festival d'Annecy, quoi. Et on a Carrefour du cinéma d'animation qui est devenu vraiment le carrefour de toutes les sortes de cinéma d'animation qu'on peut faire avec quand même une approche auteur. C'est vrai qu'on n'est pas très grand studio, grosse production. Voilà, on a un choix de cinéphile.
Et j'ai l'impression qu'il y a effectivement le souci de mettre en valeur tout un tas de formes et de formats, justement, parce que vous parlez des courts-métrages, des films de patrimoine, des longs-métrages aussi, mais j'ai l'impression que vous allez montrer aussi des séries ou des choses développées par exemple par France Télé aussi.
Voilà, alors la série fait un peu son entrée au carrefour du cinéma d'animation. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on l'avait peu explorée, on était plus... sur le court-métrage d'auteur et le film d'animation d'auteur aussi, on va dire. Et là, on nous propose des séries d'animation adultes très créatives, très étonnantes. Et là, ça nous intéresse. Du coup, on dit OK, on y va. On fait venir les auteurs. On montre effectivement des épisodes inédits, la manière dont ils travaillent. Mais c'est un peu une première. On a dû passer une ou deux fois des séries, mais pas beaucoup. On avait fait il y a 2 ans Bobby Pills, le studio d'animation de séries adultes. On leur avait fait un espèce de focus parce qu'on s'était dit il se passe un truc là sur la série d'animation adulte trash, un peu sexe, un truc un peu inédit. On s'est dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Et donc on avait d'ailleurs rempli la salle, il y avait eu un succès fou. Et là, on s'est dit, on est allé sur, il y a 2 séances un peu séries, et on est très très content aussi de montrer ce qui se passe de ce côté-là, quoi, parce qu'au Cartoon Forum, on voit bien qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de la série adulte, d'autres visuels aussi. On sort de séries hyper connotées quand même enfants, preschool. On sort un peu des formats habituels et on sent qu'il y a quelque chose à accompagner en tous les cas. Et dans ce cas-là, on est là pour ça aussi, pour montrer qu'il se passe quelque chose et qu'on a envie de l'accompagner. C'est aussi ça, programmer un festival.
Merci beaucoup. Et en fait, vous parliez de différents formats là. Et particulièrement, moi, je pense au court-métrage, oui, qui est un peu la production la plus importante en cinéma d'animation, mais qui est le moins montrée,
oui,
d'une certaine manière.
Alors, pas chez nous.
Pas au carrefour d'animation, mais on va dire...
Et même toute l'année, en fait. On en glisse toute l'année. Souvent, on a des longs-métrages, par exemple, sur les thématiques qui sont plus du long-métrage de fiction. On essaye aussi de créer des surprises, de montrer aux gens des films qu'ils n'auraient pas vus. Par exemple, des courts-métrages d'animation qui vont bien avec le long-métrage. C'est vrai qu'on convoque le court-métrage et le court-métrage d'animation quand on peut, parce qu'on sait très bien que les gens qui ne vont pas en festival, notamment, en voient très peu, quoi. En fait, on essaye de décloisonner au maximum. C'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait un rendez-vous cinéma d'animation, mais c'est bien aussi de programmer l'animation comme du cinéma, point, quoi.
Non, tout à fait, on est vraiment d'accord. Voilà. Mais c'est juste, je me disais, comment est-ce que vous mettez en valeur, comment vous réfléchissez la programmation de court-métrage au sein du carrefour de l'animation?
Le court-métrage, il se trouve à plusieurs endroits. Le premier pilier, c'est vraiment le court-métrage d'animation pro. Donc cette année, on a 4 séances au lieu de 3, parce qu'on a créé une séance jeune public, parce que la production jeune public était tellement bien, étonnante, pas formatée justement, qu'on a créé cette séance. Là, c'est vraiment... moi qui m'en occupe, c'est mes coups de cœur. Je connais très bien les réalisateurs, les producteurs, et en général, donc... Après Annecy, je travaille avec eux pour essayer d'avoir les films qui sont finis entre Annecy et Carrefour et que les producteurs puissent faire aussi leur première au Carrefour, tester le film, faire venir les équipes. Donc c'est un moment en plus où les équipes sont là, où, Et donc, je mélange les genres, les techniques. J'accompagne des réalisateurs que je connais souvent depuis longtemps dans leur deuxième, troisième, quatrième film. Donc, en général, ils sont très contents d'être au forum et de faire souvent leur première projection au forum. Et là, donc, c'est vraiment une programmation subjective. C'est moi qui aime ces films, c'est moi qui les porte, c'est moi qui ai envie d'aller les défendre devant le public. Et j'assume ce côté...
Oui, on vous voit souvent sur le devant de la scène.
Voilà, il n'y a pas d'appel à film, il n'y a pas de jury, c'est moi toute seule. Et quand un film ne me plaît pas, ben, je dis au producteur, je suis désolée, mais cette année, je ne vais pas le programmer parce que je n'ai pas aimé le film. Ce qui est dur hein, quand on connaît bien les gens et qu'on aime bien les producteurs, mais voilà, parfois on peut être déçu. Et j'essaye voilà, d'avoir, selon moi, en tous les cas, un panel du meilleur de la production de courts-métrages d'animation pro. Après, quand on a des invités comme Constantin Bronzit, qui ne fait quasiment que du court-métrage, du coup, on se retrouve... forcément avec une programmation de court-métrage. Donc là, c'est le côté monographie. On suit la production d'un auteur et son évolution. Il explique un peu comment il a fait ses films, comment il a eu l'idée. Jitanjali Rao, dans sa masterclass, montrera aussi la partie court-métrage de sa carrière avant de venir sur le making-of de son long-métrage. Et ensuite, il y a toute la partie politique et animation. Là, c'est ma collègue Sylvie Porte qui...
Justement, on voulait y venir.
Voilà, alors là, c'est Sylvie qui aurait pu vous en parler parce que là, c'est vraiment elle qui repère, qui concocte cette séance. C'est l'idée, effectivement, à travers le court-métrage d'animation. Parfois, des choses, d'ailleurs, qu'on trouve sur Internet, qui ne sont pas forcément dans des formats pro, diffusés. Ça peut être aussi des films étudiants soudain qui parle géopolitique et qui ont un regard sur un fait de société. Et elle mélange tout ça pour parler en gros politique et animation, géopolitique, problèmes voilà, souvent de conflits, hein, de pays en guerre.
Et bon, je vais utiliser un mot que vous n'aimez pas et que je n'aime pas non plus, mais je ne sais pas, j'en trouve pas d'autres là pour le moment. Mais pour vous, en quoi le cinéma d'animation est un genre particulièrement politique ? Ou une technique cinématographique particulièrement politique ?
Bah, en fait, il est pas politique plus que le cinéma en images réelles, mais c'est surtout que le cinéma d'animation ne concerne pas évidemment que les enfants, contrairement à ce qu'on a pensé pendant des années, et pense toujours à un certain public. Et le court-métrage d'animation aborde tous les sujets depuis très très longtemps, en fait, quand on regarde l'histoire du court-métrage. Voilà, Emile Cole, il s'adressait aux adultes, hein. Et ce que permet l'animation permet de montrer des choses, d'imager des choses, de mettre sous forme de métaphores visuelles très très fortes des choses qu'on ne peut pas montrer en image réelle, comme le viol d'un enfant, des scènes absolument terribles. L'animation permet de tout dessiner, donc de dessiner des choses qui sont invisibles ou intenables en image réelle. Et souvent par des métaphores, des choses très belles, du coup, on trouve à parler de problèmes de société assez terribles, quoi.
D'aller plus en profondeur, enfin,
De rendre supportable aussi l'insupportable, quoi.
Tout à fait.
Et c'est la force de l'animation. Et il y a certains films, on se dit, en fait, on n'aurait pas pu les faire en image réelle, c'est clair.
Bon, alors, dernière question, parce que sinon, on pourrait y passer des heures, de toute façon. Comme mot de la fin, justement, est-ce que y a des rendez-vous justement pendant ce Carrefour que vous attendez particulièrement, plus que d'autres, même s'il faudrait aller tout voir idéalement?
C'est dur de demander ça à une programmatrice, il y a 40 séances. Moi, je suis très contente de l'édition de cette année. D'abord parce qu'on a deux cinéastes qui viennent de loin et qui sont assez rares. Une cinéaste d'animation indienne qui signe un long métrage en peinture animée. C'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de faire l'ouverture avec ça. Et Constantin Bronzit est effectivement un réalisateur russe qu'on n'avait jamais invité au Forum des images. Et moi, je suis très contente de le faire venir et de l'entendre parler justement de son univers très burlesque. Il joue sur l'humour. Après, moi, personnellement, il y a des choses que j'attends, où je me dis, je veux être dans la salle, libérez-moi, je veux être là. Voilà, il y a effectivement la leçon de mise en scène de Benoît Chieux sur son prochain long-métrage, Sirocco et le royaume des courants d'air. Benoît a proposé non pas un secret de fabrication de son long métrage, mais vraiment une leçon de mise en scène, c'est-à-dire de se poser la question comment on met en scène une séquence, quelles questions on se pose. Il va décortiquer une séquence. Et voilà, il m'a dit, moi, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai dit, moi, j'adorerais écouter ça, quoi. Je veux faire ça. Et du coup, là, moi, je suis très impatiente, du coup, et de découvrir, évidemment, le long métrage sur lequel il travaille. Alors, j'ai eu la chance d'avoir le scénario entre les mains et de voir des visuels. Donc, en plus, je suis très excitée. Et de l'entendre parler, voilà, des questions de mise en scène qui se posent. Et ensuite, alors moi, j'ai toujours défendu et programmé le cinéma de Rostaud. Et je voulais faire une séance hommage à Rostaud. On a failli la faire peu après son décès. Il se trouve qu'elle se fait maintenant dans Carrefour et c'est très bien qu'on ait attendu aussi, parce que là, on va avoir la chance... d'avoir un des musiciens qui jouait avec Rostaud, Wallet, qui fait le voyage des Pays-Bas et qui vient. Il y a d'autres réalisateurs qui vont venir rendre hommage à Rostaud. Et en plus de voir sa tétralogie, donc sa dernière œuvre, on va voir des images inédites, et ça je le dis, des projets en cours qu'il avait. Et on va découvrir des images qu'on n'a jamais montrées encore, absolument incroyables, que j'ai eu la chance de voir, moi. Et là, je serai dans la salle, en fait, pour écouter tous ces gens-là rendre hommage à Rousseau. Alors, je pense qu'il va y avoir des larmes aussi, que ça va être très, très émouvant. On va écouter sa musique aussi, la musique de son dernier album. Et je pense que ça va être super intense, quoi. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Rostaud, je les invite vraiment à découvrir son cinéma très rock, très gothique. Et moi, j'avais une admiration sans borne pour lui. C'était quelqu'un de génial, même humainement. Donc voilà.
Oui, on avait eu la chance d'avoir un de ses courts-métrages en ouverture de l'Étrange Festival, juste avant.
Reruns, oui.
Exactement. Donc voilà, on va finir sur ce bel hommage. Ouais. Merci beaucoup, Isabelle Vanini.
Merci à vous
d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci à Anna Mandico, Gabriel Régnier et le Forum des images de nous accueillir aujourd'hui.